Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Blaise Ndali Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les titres de ce journal. Philippe Ograndi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en visite en RDC. Il est venu s'enquérir de la situation des personnes en déplacement forcé, tout en envisageant des solutions concertées pour répondre aux défis liés aux réfugiés congolais et rwandais. Cette visite intervient alors que les initiatives se multiplient pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays, y compris celle des populations déplacées. C'est au cadre des Nations Unies sera l'invité de ce journal. Face aux exigences constitutionnelles et aux contraintes sécuritaires dans l'est du pays, le Conseil interreligieux congolais appelle à une mobilisation collective autour des élections à venir. Son coordonnateur a lancé cet appel lors de l'ouverture de l'atelier qu'il organise du 26 au 29 août à Kinshasa, consacré à la feuille de route du processus électoral couvrant la période 2025-2029. Encore une fois, bonjour à tous. Commençons ce journal par le verdict attendu au procès contre Constant Mutamba aujourd'hui à la Cour de cassation. À l'audience du réquisitoire, le ministère public a demandé à la Cour de condamner l'ancien ministre de la Justice à 10 ans de travaux forcés assortis de 10 ans d'inéligibilité après avoir purgé la peine des privations du droit à la libération conditionnelle ainsi que de son exclusion des fonctions publiques. Dans son réquisitoire, le ministère public tenait à ce que la Cour déclare à ce jour établi à charge de l'accusé l'infraction de tentative de détournement des 19 millions de dollars américains et de les condamner. Le prévenu a eu à plaider non coupable, qualifiant son procès d'un complot politique. Reste maintenant à savoir si les juges, à l'issue de leur délibéré, vont aujourd'hui rencontrer toutes ces dispositions. Attendons donc la sentence. Nous le disions en titre, la recherche des solutions à la crise des réfugiés rwandais et congolais au cœur des préoccupations du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en mission de travail à Kinshasa. Cette visite intervient alors que les initiatives se multiplient pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays, y compris celle des populations déplacées, une dynamique qui appelle à une coopération renforcée entre les différents acteurs étatique de la région. Ronéline Thibonera pour les détails.
Pour ces hauts fonctionnaires des Nations Unies, les conditions de vie extrêmement précaires des milliers de réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés internes dans l'est de la RDC, ainsi que dans le pays voisin, exigent une action concertée afin de répondre à la crise humanitaire qu'elles engendrent.
J'ai eu des entretiens avec le président de la République, avec les ministres. Je me rends au Rwanda avec le même message. Je suis sûr qu'on aura une réponse positive de l'autre côté et on voit pour ça. Est-ce que cela va engendrer un grand mouvement de retour? À mon avis, ça sera graduel. Ça dépend aussi de l'évolution du processus politique.
Dans le but de s'assurer du bon déroulement et du succès des opérations en cours, Philippe Ograndi mise sur l'expérience et son organisation pour une gestion efficace de cette crise des réfugiés en faveur des deux nations.
Le retour doit être volontaire. On doit vérifier l'identité des personnes. On doit soutenir ce retour avec des moyens matériels. On doit pouvoir faire le suivi du retour pour voir que les gens ne subissent pas d'injustice, d'exactions quand ils sont entrés chez eux. Alors le HCR a un rôle de facilitation dans tout ça et un rôle de garantie juridique, si vous voulez. C'est nous, les dépositaires des principes.
Depuis 2022, seules 13 772 personnes ont été rapatriées vers la RDC par les HCR sur un total de 1 224 592 réfugiés congolais établis principalement au Rwanda, au Burundi et en Ouganda.
À la fin de cette édition, vous pourrez écouter plus en détail le haut commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Philippe Ograndi, je l'ai dit, est l'invité de ce journal. Au nord Kivu, pendant ces temps, les habitants du groupe Mabinza, territoire de Rutshuru, ont de nouveau un accès à leurs champs de culture et à leurs récoltes. Ceci après plus de 3 mois d'interdiction imposée par la rébellion de l'AFC M23. Selon les sources locales, depuis lundi, les populations de l'axe Katwiguru jusqu'à Nyamilima, chefferie de Bwisha, se sont vus autorisés par les rebelles à se rendre à leur champ. Cependant, pour ces sources, cette autorisation effective depuis lundi 25 août ne serait que de courte durée. Le détail avec vous, Sarah Sumbela.
Cette population d'Obinza, dont la survie dépend exclusivement de l'agriculture, plaide pour une prorogation de cette mesure qui est d'application pendant 2 semaines uniquement, indique un notable local joint sur place. Rappelons que cette restriction d'accès aux champs dans cette zone avait été décidée par les rebelles de l'AFC M23 au motif d'éviter toute confusion entre civils et rebelles hutu-rwandais présumés de FDLR. Durant le mois de juillet dernier, selon plusieurs rapports, dont celui le plus récent de Human Rights Watch, la rébellion de l'AFC M23 a mené des opérations de ratissage et de traque de présumés FDLR dans cette zone. Environ 300 civils ont été exécutés pendant cette opération comme victimes collatérales dans les localités de Kiseguro, Katwiguru, Kisharo, Busesa, Congo, Kigaligali, Nyabanira, Kasave et Kiito, entre autres. Ces victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, avaient été tuées en raison de leur prétendue affiliation aux rebelles FDLR. Un rapport qui a toutefois été contesté à la fois par la rébellion du M23 et par le gouvernement rwandais à travers un communiqué officiel le 22 août dernier.
Ici à Kinshasa, la communauté Banyamulenge, par la voix de son président Enoch Rubirangabu, appelle les autorités à garantir la sécurité de ses membres. Cet appel a été lancé lors d'un point de presse tenu ce mardi 26 août à Kinshasa. Cette déclaration intervient après un incident survenu à Uvira, dans le sud Kivu. Avant-hier lundi, des présumés miliciens Wazalendo ont été accusés d'avoir assiégé une église où des membres de la communauté organisaient les funérailles d'un de leurs, un colonel de IFA-RDC décédé dans un crash d'avion près de Kisangani. La communauté exige que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et réaffirme son droit à vivre en paix à Uvira. On écoute Enoch Rubirangabu dans ses propos recueillis par Josué Kefebe.
Mesdames et messieurs de la presse, nous voici, il se passe pour une communication importante sur ces menaces existentielles qui pèsent sur notre communauté en général et plus particulièrement sur les événements qui se sont déroulés hier dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Notre communauté est fatiguée d'être au centre d'une guerre régionale. Nous refusons d'être des boucs émissaires. Nous sommes chez nous et nous y restons. Nous n'avons pas ailleurs. Les Banyamulenge d'Uvira doivent être protégés au même titre que tous les compatriotes qui y vivent. Seul le gouvernement, à travers les institutions provinciales et locales, ont la responsabilité de sécuriser tout le monde. Uvira ne doit jamais devenir un no man's land de hors la loi. Nous exigeons la sécurité. Les criminels comme ceux d'hier, ils doivent être poursuivis.
Revenons encore une fois au Nord Kivu où l'artiste musicien congolais héritier Watanabe appelle à la fin des violences dans l'est du pays. À l'issue de son bref séjour lundi dans le grand nord de la province, notamment à Butembo et à Beni, il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs de se mobiliser pour la paix. Selon lui, il est urgent que la population durement touchée par les conflits puisse enfin vivre dans la sécurité et la sérénité. Héritier Watanabe s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Je suis passé par Beni pour une première. Je vis Kassindi. Je suis très heureux et très ému pour l'accueil et l'hospitalité. Mais on s'est plaint aussi pour les autres qui sont sous occupation, que Dieu fasse grâce, que ça finisse. Si ça va finir par la guerre, que ça finisse tôt. Si ça va finir par les négociations, que ça finisse tôt, pardon. Si ça va finir par les dialogues, que ça finisse tôt. Parce que nos frères doivent récupérer leur liberté. Ils doivent vivre aisément, tranquillement et surtout dans la paix. Pour le mort, nous avons compté beaucoup de morts à l'est du pays. On en a marre. Que Dieu fasse quelque chose. Et que le Congolais, que ce soit du côté de l'opposition, de la majorité, donc du pouvoir, ou même de la rébellion, qui se disent une chose. Il est temps d'arrêter avec tout ça et de voir comment est-ce que nous pouvons développer ensemble notre pays. Parce que le pays n'appartient pas à une personne. Le pays nous appartient tous. Et on doit le développer ensemble.
face aux exigences constitutionnelles et aux contraintes sécuritaires dans l'est du pays, le Conseil interreligieux congolais SIC appelle à une mobilisation collective autour des élections à venir. Son coordonnateur a lancé cet appel lors de l'ouverture de l'atelier qu'il organise du 26 au 29 août à Kinshasa, consacré à la feuille de route du processus électoral couvrant la période 2025-2029. Les participants à ces forums explorent différents scénarios visant à garantir la participation de tous les Congolais sans discrimination géographique aux scrutins à venir. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Durant 4 jours, ces panélistes réfléchissent sur les voies et moyens de préserver l'intégrité et la crédibilité des données du processus électoral dans les zones affectées, ainsi qu'à la légitimité des résultats. Ils identifient et analysent les contraintes au-delà du facteur sécuritaire susceptible d'impacter le bon déroulement des élections à venir. Cette démarche vise à capitaliser les expériences d'autres pays et à organiser les scrutins dans les contextes similaires afin d'en tirer des enseignements pertinents. Les coordonnateurs du Conseil interreligieux congolais recommande la formulation des pistes et des solutions réalistes susceptibles d'amener la CENI à organiser les élections dans le respect des dispositions constitutionnelles malgré les défis sécuritaires. Archevêque Dodo Kamba.
Que nos réflexions soient guidées par la sagesse, la vérité et la justice afin de proposer des pistes réalistes qui permettront à la CENI de remplir sa noble mission dans le respect et des exigences constitutionnelles malgré le défi sécuritaire.
Les conclusions de cet atelier seront transmises à la CENI, au gouvernement et au Parlement en vue de leur intégration dans les stratégies de mise en œuvre de la feuille de route électorale 2028 dans le respect de la Constitution et des engagements internationaux.
Faire de mes premiers 1000 jours un bon départ pour la vie, c'est l'intitulé de la campagne nationale lancée ce mardi à Kinshasa par le gouvernement et les programmes alimentaires mondiaux. Objectif, promouvoir les pratiques nutritionnelles adéquates auprès des personnes en situation de malnutrition. Des précisions avec vous, Freddy Lufulabo.
La campagne lancée aujourd'hui va s'étendre jusqu'au 20 décembre 2025. Elle va se dérouler dans 5 provinces de la RDC où le PAM a déployé ses antennes. Tanganyika, Kasaï, Ituri, Nord et Sud Ubangi. Il est question d'amener la population congolaise à adopter des comportements recommandés en matière d'alimentation équilibrée et variée. La campagne vise aussi à inciter chaque acteur à jouer son rôle dans la chaîne de la sécurité alimentaire, puisqu'en RDC, la situation reste préoccupante. Environ 28 millions de personnes n'arrivent pas à manger à leur faim, a déploré le directeur adjoint du PAM RDC. Allo Sib a particulièrement insisté sur la précarité qui prévaut dans les zones en conflit. Pour sa part, Béatrice Kalenga, directrice adjointe du Programme national de nutrition, a souligné la nécessité de bien nourrir chaque bébé pendant ses 1000 premiers jours, une période cruciale pour le développement et le bien-être de l'enfant. Elle va de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans.
À Matadi, dans la province du Congo central, les tenanciers des pharmacies suivent une formation sur la planification familiale. Organisée par la division provinciale de la santé avec l'appui de l'ONG DKT RDC, cette session vise à leur apprendre à mieux conseiller et orienter les clients sur l'utilisation de méthodes contraceptives. Docteur Alain Matoko, senior manager chez DKT RDC, explique que l'objectif est de réduire les effets indésirables liés à l'utilisation des contraceptifs. Écoutons ces explications au micro des Nana Plurich Mambo.
Nous avons profité aussi de former les tenanciers de pharmacie parce que dans des officines pharmaceutiques, on vend aussi des contraceptifs. Ils doivent savoir quels sont les avantages et qui peut utiliser ces méthodes contraceptives. Parce que là, vous allez voir, ils vendent des pilules, ils vendent aussi des injectables, des jarres de Popovera. Ce sont des méthodes contraceptives. Ils doivent savoir, les méthodes là, ce sont des médicaments. Et ces médicaments, ce n'est pas à donner à n'importe qui. Et vous allez voir, il y a des contraceptions d'urgence. d'urgence, comme le nom l'indique, c'est donné pour un cas d'urgence. Mais vous allez voir dans la communauté, des jeunes filles les prennent comme des cacahuètes. Déjà, là où ils s'en procurent facilement sont des pharmacies. Donc, on est obligé de former les tenanciers des pharmacies pour qu'elles déjà comprennent quels sont les risques à prendre ces médicaments abusivement. Les risques, par moment, vous allez voir que la femme aura des troubles de cycle menstruel. Elle va commencer à avoir des sangs à tout moment et même, elle peut voir même des aménorrhées. Donc, absence des règles, ça peut aussi poser des problèmes dans leur fécondité future.
Au Katanga, avant d'aller plus loin, la police lance l'opération Zéro Véhicule sans plaque d'immatriculation. Elle a déjà saisi plusieurs véhicules qui roulent sans plaque à Lubumbashi. Au cours d'une causerie morale avec les éléments de la police des circulations routières ce mardi à Lubumbashi, le commissaire divisionnaire adjoint souligne qu'une plaque d'immatriculation permet d'identifier un véhicule en cas d'accident et de lutter contre la criminalité. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba s'exprime au micro de Paul Munanga.
Le manque d'une plaque d'immatriculation expose les victimes des accidents, expose aussi d'autres victimes parce qu'on ne sera pas identifié. Ceux qui kidnappent les gens, ils sont là et nous mettons la main sur eux au quotidien. C'est un rappel qu'on ne doit pas négliger ce qui est prévu par la loi. J'ai commencé par nous, les généraux. Lorsque vous décidez de prendre un volant, vous êtes chauffeur, c'est ce que dit le code. Vous êtes usager de la route. Alors, acceptez la gymnastique qu'il y a là-bas. Ou bien vous faites conduire et ce chauffeur qui est censé maîtriser le code de la route, il va vous conduire bonnement jusqu'à destination. À la population de s'approprier cela. C'est pour son bien, c'est pour sa propre sécurité qu'on demande qu'un véhicule puisse porter une plaque d'immatriculation. Et qu'on demande à ce que ça soit une vraie plaque, tout simplement, pour que l'auteur d'une infraction puisse répondre en cas d'accident ou en cas d'utilisation de ce véhicule dans des activités clandestines. Et c'est pour bien garder notre ville et notre province du Haut-Katanga dans le cadre de la sécurité des personnes et de leurs biens.
Actualité internationale.
Les autorités d'Afrique du Sud mettent en garde la jeunesse sud-africaine face aux fausses offres d'emploi à l'étranger. Une mise en garde qui intervient après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Une influenceuse proposait des offres alléchantes en Russie pour des jeunes filles à la recherche d'une vie meilleure. L'Afrique du Sud rappelle que pour toute offre d'emploi, il faut se rapprocher de l'ambassade sud-africaine pour éviter les offres frauduleuses, souvent synonymes d'exploitation ou des trafics d'êtres humains.
L'invité.
Notre invité est Philippe Ograndi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. En visite en RDC, il est venu s'enquérir de la situation des personnes en déplacement forcé tout en envisageant des solutions concertées pour répondre aux défis liés aux réfugiés congolais et rwandais. Il répond aux questions de Ronéline Tibonera.
Philippe Ograndi, bonjour.
Bonjour.
Votre agence estime à 123 millions le nombre de personnes déplacées par force, à savoir les réfugiés, les déplacés internes et les demandeurs d'asile dans le monde. Environ un tiers de cette population, soit 40 millions, se retrouve en Afrique. Et en République démocratique du Congo, on estime à 7 millions le nombre de déplacés internes, ce qui constitue la deuxième plus grande crise de déplacement sur le continent africain, ainsi qu'un demi million de réfugiés en RDC, principalement dans sa partie est. En vous voyant aujourd'hui en République démocratique du Congo, quelles nouvelles positives vous apportez à cette population qui espère beaucoup de votre passage?
Le déplacement que vous avez décrit ici à RDC est le résultat de multiples conflits à l'intérieur du pays ou dans les pays voisins ou même, malheureusement, entre pays. L'accumulation de conflits dans cette région a créé ce problème énorme de déplacement. Ajouter aussi 1 200 000 Congolais qui se trouvent dans les pays voisins, en Ouganda notamment, en Rwanda, Burundi, et Tanzanie et autres. Donc c'est une situation très complexe. Et vu la nature des conflits qui prévalent ici dans la région, nous avons eu au fil des années très peu d'opportunités de résolution. C'est seulement les solutions politiques des conflits qui ouvrent la porte à des solutions humanitaires comme le retour des réfugiés chez eux, volontaires et durables. Alors, les événements que nous avons vus se dérouler sur le plan politique par rapport au conflit principal entre la RDC et le Rwanda ces derniers mois sont encourageants. L'accord de paix de Washington, qui a été facilité par les États-Unis, le dialogue à Doha entre la RDC et les groupes armés qui occupent une partie de l'Est sont positifs. Le texte de l'accord de Washington, le texte de la déclaration des principes de Doha qui a été émis il y a quelques semaines, les deux textes incluent une mention de la nécessité de résoudre le problème des réfugiés. Alors c'est ça le message positif. Il y a une volonté politique. Maintenant, il faut œuvrer dans cette direction. Ça va être très complexe, mais c'est pour cela que je suis dans la région.
Le HCR s'est engagé dans un processus de rapatriement de réfugiés congolais vers leur pays d'origine. Et c'est un processus qui est en cours depuis 2022. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec cette phase?
Alors le nombre de personnes, donc de réfugiés rwandais au Congo et congolais au Rwanda, parce qu'il y en a des deux côtés, le nombre de ceux qui sont rentrés dans les dernières années n'est pas énorme. C'est plutôt limité, c'est dans les centaines, voire les milliers. En fait, ils sont beaucoup plus. J'espère que ces deux accords dont j'ai parlé, Washington-Doha, et la reprise du dialogue, on appelle ça le dialogue tripartite, RDC-Rwanda-HCR. Vous savez qu'après Washington, on a relancé de nouveau, une fois de plus, ce dialogue. On a tenu une réunion ministérielle à Addis Ababa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, y était présent. Le ministre rwandais était présent également. On s'est mis d'accord sur les principes. Le retour doit être volontaire. On doit vérifier l'identité des personnes. On doit soutenir ce retour avec des moyens matériels. On doit pouvoir vérifier le suivi, faire le suivi du retour pour voir que les gens ne subissent pas d'injustice, d'exactions quand ils sont entrés chez eux. Alors le HCR a un rôle de facilitation dans tout ça et un rôle de garantie juridique, si vous voulez. C'est nous les dépositaires des principes de la protection des réfugiés et donc, à travers notre travail, on va rappeler aux deux parties, donc Rwanda et RDC, que s'ils veulent bien faire, il faut le faire selon les principes. Cela est complètement accepté. Ici, j'ai eu des entretiens avec le président de la République, avec les ministres. Je me rends au Rwanda avec le même message. Je suis sûr qu'on aura une réponse positive de l'autre côté et on vous rapprochera. Est-ce que cela va engendrer un grand mouvement de retour? À mon avis, ça sera graduel. Ça dépend aussi de l'évolution du processus politique, qui est très complexe. Mais si ce dernier évolue, j'espère qu'on va trouver de plus en plus de solutions aussi à tout ce qui est déplacement forcé.
Philippe Ograndi, merci.
Merci à vous.
C'est la fin de notre grande édition du journal Parler du matin. Merci de nous avoir suivis.